nous aurons tout dans 10 000 ans.
C'est la fin du Ferry Club. À la semaine prochaine.
Bonjour à toutes et à tous, il est 17h01, nous sommes le mercredi 27 décembre 2023, vous écoutez Au fil des pages sur Radio Libertaire. C'est parti pour une heure et demie d'émission consacrée aux livres. Nous allons parler de livres, des livres, et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Sylvie Lefebvre pour son ouvrage « La magie du codex » paru aux Belles Lettres en 2023. Avant que nous présentions les ouvrages, Fred, une annonce peut-être ?
Tout à fait, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Donc une petite annonce. Dans le cadre du Ciné de la Commune, le 17 janvier, nous projetterons le film « Schkoun, les sauvages », un film de Raphaël Bruyas. C'est des témoignages des habitants du quartier de Mont-Rénaud à Saint-Étienne qui font référence à une émission de télé, comment s'est passé, disons, ce tournage et ce qu'ils en ont ressenti. Donc c'est un documentaire sur un film, en fait, sur un tournage. Vous pourrez nous contacter aussi via notre blog en cherchant sur Google Commune de Paris Fédération anarchiste overblog.com sur la rubrique contact, et n'oubliez pas aussi de soutenir Radio Libertaire en allant directement sur le site radiolibertaire.org. Sur la page d'accueil, vous trouverez sur votre écran en bas à droite soutenir la radio, et toutes les explications sont dessus. Je repasse le micro à Francis.
Merci Frédéric. Alors en plus de nous écouter, n'hésitez pas à nous écrire. Notre adresse postale pour nous présenter des livres, par exemple, bien c'est Librairie Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e. Mais mettez bien sur l'enveloppe Au fil des pages, émission Au fil des pages sur Radio Libertaire, car il y a d'autres émissions et parfois il y a des interférences. Premier temps de l'émission, et avant de rentrer encore dans la présentation des livres, je voudrais rappeler la disparition, il y a une dizaine de jours, de Claude Villers, un grand homme de la radio. On écoutait Marche ou rêve, on écoutait évidemment le célèbre Tribunal des flagrants délires avec Pierre Desproges, et Claude Villers est décédé. Je vous renvoie sur le site du Monde Libertaire, nous avons Florence de l'émission Des cailloux dans l'engrenage a fait un hommage à Claude Villers. Voilà. Premier temps donc de l'émission, en ces temps de fin d'année, certains d'entre nous veulent découvrir des expositions et je vous propose celle consacrée à Steinlen qui se déroule au musée de Montmartre en ce moment. De Théophile Alexandre Steinlen, nous connaissons évidemment la célèbre affiche du Chat Noir, le cabaret montmartrois. Or, cet affichiste, graveur, peintre, sculpteur, sut mobiliser ses talents artistiques au service aussi de la cause sociale, celle du monde ouvrier. Et pour valoriser son œuvre, le musée de Montmartre organise une exposition de ses tableaux, de sculptures, jusqu'au 11 février 2024. Et comme le soulignent les organisateurs, un fil conducteur se détache, celui de l'engagement, tant l'artiste associa art et politique en se faisant témoin de son temps. Il croyait en la mission sociale et politique de l'art comme voie VOIE, et voix VOX vers un monde meilleur. L'exposition se déroule selon un parcours chronothématique. On a toute la partie relative à la passion des chats, et quand il va arriver à Montmartre, il va faire notamment la célèbre apothéose des chats, un tableau assez intéressant à voir. Et puis il va fréquenter les cercles anarchistes de la Butte, il deviendra un porte-parole du peuple, des marginaux, et vous verrez au fil de ses toiles, les maçons creusois, les chartiers, les terrassiers qui croisent des mineurs, les trieuses, vous savez, ces femmes qui triaient les morceaux de charbon et qui se déchiraient les mains sur ces morceaux. Et je renvoie d'ailleurs à cet effet au livre « Les gueules noires » d'Émile Morel, qui a été réédité aux éditions À Propos et qui est justement illustré par Steinlen. Je l'avais commenté dans la chronique « Des idées et des luttes » sur le site du Monde Libertaire le 6 novembre 2022. Alors, parmi les gens de la rue, nous retrouvons aussi les prostituées. Terrible visage de la pierreuse, cette prostituée démunie, c'est le titre d'un de ses tableaux, prostituée démunie, réfugiée dans les ruelles et les fortifications, mais aussi cette jeune fille, la fille du faubourg, ou celle du tableau Le prolétariat de l'amour. Et pour mieux comprendre la vie de ces femmes, il se rend à Saint-Lazare, la prison pour femmes de l'époque, et il y mène une enquête de terrain. On voit la misère qui s'affiche et le trait qui souligne la souffrance. Par exemple, il y a un tableau, hiver 1892, qui laisse deviner un froid glacial, une nuit sans nuages éclairée par la lune, avec une femme et ses trois enfants autour d'elle, dans la rue, et quelques piétons tout aussi transis de froid. Mais la société n'offre pas d'espoir? Eh bien, certes, le tableau « La Commune », qui a été peint en 1885, traduit l'intensité des combats et cette femme, le drapeau rouge à la main, sur une barricade qui est en train de tomber sous les balles versaillaises, fait évidemment penser à « La liberté guidant le peuple » de Delacroix. L'appel à la mobilisation des ouvriers apparaît dans de nombreuses toiles et dessins. Je relèverai par exemple le pastel, les drapeaux rouges. Et puis, il va aussi s'intéresser à la Grande Guerre, puisqu'il est témoin de la Grande Guerre, et il dénonce dans ses toiles l'absurdité du conflit. L'une d'entre elles est éclairante, il l'a intitulée « La gloire », c'est-à-dire qu'on voit trois femmes en deuil, devant un cercueil recouvert d'un drapeau tricolore et de la palme des anciens combattants. Vous savez, cette palme qu'ont nombre d'anciens combattants sur leur tombeau. On a aussi l'Exode, ou les camarades qui traduisent l'horreur de cette guerre. Je renvoie et j'insiste, car c'est tout de même l'objet de notre émission, de parler de livres, je renvoie au catalogue qui constitue une excellente synthèse de cette exposition et met en perspective les toiles, la vie, les sentiments de Steinlen. Il permet aux visiteurs de garder en mémoire cette histoire et ce talent. Allez-y, profitez-en, ce coin de Montmartre en cette période n'est pas aussi envahi que celui qui donne sur Paris, et en descendant les marches vers le 18e arrondissement, peut-être en plus quand il fait un peu nuit, vous croiserez peut-être quelques ombres furtives des communards de l'époque. Théophile Alexandre Steinlen, 1859-1923, l'exposition du centenaire jusqu'au 11 février 2024, musée de Montmartre, 12 rue Courtauld, 18e arrondissement. Profitez-en aussi pour aller voir le reste, enfin, pas uniquement cette exposition. Et le catalogue, lui, a été publié aux éditions In Fine en 2023. Nous retrouverons Agnès pour l'émission du 10 janvier 2024, où elle nous parlera d'une montmartroise qui a fréquenté, qui a connu Steinlen. C'est une femme de caractère, Suzanne Valadon. Elle a connu évidemment Steinlen, elle a connu une quantité de personnes, et tout ce monde se retrouvait dans les bals et les guinguettes de la butte. Écoutons une chanson célébrissime, en tout cas un extrait, avec un clin d'œil à une chevelure rousse, comme le modèle du tableau de Steinlen qui sert d'affiche de l'exposition. En me promenant dans Paris cet après-midi, je me suis aperçu que l'officiel des spectacles avait repris d'ailleurs cette affiche pour insister sur la qualité. Frédéric, on va passer à un extrait de la complainte de la butte, interprétée par Cora Vauquer.
En haut de la rue Saint-Vincent, un poète et une inconnue s'aimèrent l'espace d'un instant, mais il ne l'a jamais revue. Cette chanson il composa, espérant que son inconnue un matin de printemps l'entendra quelque part au coin d'une rue. La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein de trous. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur blessé. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les des moulins protègent les amoureux. Petite monigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sur ta lèvre une odeur de fièvre, de gosse mal nourrie. Et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des protège les amoureux. Mais voilà qu'il flotte, la lune se trotte, la princesse aussi. Sous le ciel sans lune, je pleure à la brune, mon rêve évoque.
Toujours sur la butte, je voudrais vous présenter d'Henri Murger, Scène de la vie de Bohème, réédité chez Calman Levy en 2023. Oh, vous êtes nombreux à avoir déjà écouté ou au moins entendu les airs de Mimi, Rodolphe, Marcel, Musette dans le célèbre opéra de Giacomo Puccini, La Bohème. Et l'émission Un classique, s'il vous plaît, qui est la petite sœur de l'émission d'aujourd'hui, Au fil des pages, sur Radio Libertaire, diffusera, c'est la petite sœur parce qu'elle vient simplement de commencer ses émissions au mois de juin, diffusera le mardi 23 janvier 2024 entre 10h30 et 12h30 sur Radio Libertaire, cet opéra. Mais sait-on que ce morceau de choix de la musique italienne s'inspire d'un livre, Scène de la vie de Bohème, se déroulant dans les années 1840-1850 en France, et que le livre est écrit par un célèbre Henri Murger. En vérité, peu connu, son livre est plus connu que lui. Il figurait dans le gigantesque catalogue des éditions Calman Levy, qui a eu le bon goût de rééditer le livre avec une très belle reliure pour un prix tout à fait raisonnable. Si vous voulez lire l'histoire des éditions Calman Levy, je renvoie évidemment au livre de Jean-Yves Mollier, les éditions Calman Levy. Je pense, Sylvie, que vous devez connaître évidemment, et peut-être aussi ce livre. Il est vraiment tout à fait passionnant. Alors, le livre de Murger a connu un très grand succès et Puccini s'en inspirera. L'opéra sera joué en 1866, un succès immédiat. Bon, il y a quelques petites modifications, vous verrez, vous lirez le livre et vous écouterez l'opéra. Murger reste l'inventeur de cette bohème des arts et des lettres lorsqu'il entreprend de décrire le style de vie non conformiste de sa génération dans le quartier latin de la décennie 1840. Ce petit roman, à l'origine, était destiné à la presse sous forme de feuilleton. C'était une bohème, et rien à voir évidemment avec les gens du voyage, c'était une bohème littéraire pour présenter le petit peuple de l'imprimerie. Murger, lui, est issu d'une famille modeste, des parents concierges dans la Nouvelle-Athènes, entre Saint-Lazare, Pigalle, au pied de la butte aussi. Et il souhaite écrire. Et il a comme tuteur un certain Eugène Potier. Vous connaissez l'international. Mais Murger ne s'en satisfait pas. Il apprend l'art de la poétique, mais il veut aller au-delà. Alors, il écrit ce livre, Scène de la vie de Bohème. Et il a cette phrase, c'est aussi la misère et le doute, vie charmante, là je cite, vie charmante et vie terrible, qui a ses victorieux et ses martyrs, et dans laquelle on ne doit entrer qu'en se résignant à l'avance à subir l'impitoyable loi du vae victis. Hormis cette phrase, le ton est drôle, léger, prime sautier, guilleret, les formules sont jolies, c'est drôle, on a un plaisir à lire ce livre, on en sort le cœur léger. Oh oui, dans les brasseries, on parle haut et fort, on a beaucoup de bouteilles pour nous accompagner. Ce sont les personnages, là, vous les retrouverez, Rodolphe, etc., Mimi, évidemment, ce sont les personnages de Puccini. Les couples se font, se défont, il y a de la tristesse, de la mélancolie, vous irez vous promener du côté de d'enfer, qui n'est pas encore Rouchereau. Et Mimi est malade, sans doute la tuberculose. Mais elle est soignée entre Fontenay-aux-Roses, Châtillon, Le Plessis, un secteur que je connais bien, donc dans le sud de Paris. Et ses amis cueillent des violettes. Vous savez, c'est cette fleur de grisette, comme la grisette, comme la statue au-dessus du canal Saint-Martin. Et il lui apporte des violettes. Et il y a effectivement encore des violettes dans certains jardins de ce secteur. Elle meurt. Mais vous découvrirez la différence avec la scène de Puccini. Et puis, eh bien, tout doit se terminer. Les amis se rangent, sont bourgeoises. La bohème est finie. Et je cite... Nous sommes finis, mon vieux. Nous sommes morts et enterrés. La jeunesse n'a qu'un temps. Et vous verrez que tous ces héros, finiront une vie bien bourgeoise. Henri Murger, Scène de la vie de Bohème, chez Calman Lévy, en 2023. Donc deux petits livres, enfin, deux livres consacrés à la butte et consacrés à cette ambiance. Et puis je terminerai cette première partie avec un livre qui n'a rien à voir, qui s'intitule « Croix de cendre » d'un certain Antoine Sénanque. Un livre tout à fait récent qui a été programmé dans le Goncourt. Il ne l'a pas eu, donc c'est un gage de qualité. Et non, je suis méchant parce que le dernier Goncourt, semble-t-il, n'est pas si mauvais que ça. Je ne l'ai pas lu, mais ça, c'est Dominique qui lit cela. Mais vous vous rendez compte, Antoine Sénanque s'appelait Sénanque, bon c'est un pseudo, hein, rassurez-vous, et écrire un livre qui se déroule dans une abbaye, chapeau bas. Je trouve que c'est bien choisi. Et dès les premières pages, bah, vous entrez dans une ambiance moyenâgeuse. Un couvent dominicain dans le sud de la France en 1367. Il fait froid, ce sont les laudes, cette prière du matin qui accueille la naissance du jour et la résurrection du Christ. Rien n'est vraiment serein, Toulouse n'est pas loin, l'hérésie cathare exige une reprise en main par l'Église, l'Inquisition est encore crainte. On pourrait d'ailleurs faire référence au livre Montaillou, village occitan de le roi Ladurie, qui est décédé lui aussi il n'y a pas très longtemps. Un livre à lire. Et comme à l'accoutumée dans les romans intenses, il y a plusieurs entrées. Nous découvrons la vie dans les monastères, mais aussi la fabrication des parchemins, du vélin, les mystères renfermés dans ces cellules, les scriptoriums. Derrière, qu'on pourrait peut-être appeler les storia, voilà, puisque c'est du neutre.
Oui.
Dehors, la vie urbaine est grouillante. Les marchands, les artisans, la scène forte des lépreux rejetés de tous. Ah, c'est une scène à la Bruegel, ça. Et puis, la peste de 1348 va jouer un rôle clé dans le roman, avec des passages exacts sur le plan historique et d'autres qui relèvent de l'imagination de l'auteur, mais c'est un roman. Mais tant mieux. Et la rencontre avec l'Inquisition laisse transparaître l'inquiétude et l'impossibilité de lutter contre cette autorité, cette machine. De très belles pages aussi, d'espoir et de foi. On sent la lutte au sein de l'Église entre les deux papes, les ordres franciscains et dominicains avec leurs passions, leurs intolérances, notamment les franciscains qu'on présente tiré du bouquin d'Umberto Eco, on les présente comme étant des gens tolérants, l'autre pas forcément. Bon, et nous pourrions retrouver une atmosphère identique au célèbre livre donc, que je viens d'évoquer, Le nom de la rose, d'Umberto Eco. Les débats théologiques sont assez bien rendus, mais les passages en latin qui figurent dans l'ouvrage d'Umberto Eco ne figurent pas là dans cette version. C'est ce qui faisait aussi le goût, enfin ce qui était vraiment très agréable chez Umberto Eco, même si je ne lis pas les textes, le latin comme ça. La violence des relations est indéniable, et les débats à la Sorbonne sont rugueux. Les coups entre les étudiants rappellent François Villon, et apparaît ce grand théologien qu'est Maître Eckhart, fantastique prédicateur, objet de jalousie et de haine par ses frères en Jésus-Christ, tout un programme, des accusations proférées qui lui font risquer le bûcher. On l'accuse d'être proche d'un mouvement dit le libre-esprit. Vous avez entendu parler du libre-esprit dans cette période, Sylvie, ça vous
dit
quelque chose ?
Oui, c'est lié aussi au mouvement des béguinages. Hein.
Oui, voilà, c'est ça. Il se réfugie dans un béguinage, et alors lieu de prière pour femmes, et là, danger. Va-t-il échapper aux menaces de l'Inquisition ? Vous lirez, c'est une fresque que j'ai trouvée très intéressante. Et puis l'apparition de Maître Eckhart est quasiment hypnotique et on peut mieux comprendre l'importance de ses sermons. Malgré l'Inquisition, il ne sera pas considéré comme hérétique, mais à quel prix ? À quel prix ? Eh bien, je vous invite tout simplement à lire le livre Antoine Sélanc, Croix de cendre, chez Grasset, paru en 2023. C'est un peu la liaison qu'on pourrait faire, et nous allons maintenant, deuxième temps de l'émission, donner la parole à Sylvie Lefebvre. Bah, d'abord, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci de l'invitation.
Pour parler de votre livre « La magie du codex » publié aux éditions des Belles Lettres. Vous êtes spécialiste de littérature française du Moyen-Âge, professeur à la Sorbonne. Vous avez édité le roman de Renard dans la Pléiade.
Oui, avec trois collègues, pas toute seule.
C'est un livre, évidemment, à lire. L'Heptaméron de Marguerite de Navarre, chez Champion. Alors, l'Heptaméron, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est déjà? Je ne me rappelle plus.
C'est un livre de nouvelles écrit par Marguerite de Navarre, mais qu'elle n'a pas eu le temps de terminer. Et donc, son modèle ou son contre-modèle était le Décaméron de Boccace. Et elle n'a pas eu le temps donc de faire 10 journées et 10 nouvelles par journée, donc 100 nouvelles comme Boccace. Elle s'est arrêtée à la 72e nouvelle. Et donc, j'avais collaboré là avec un de mes anciens professeurs à la Sorbonne, Nicole Cazoran, qui est morte il y a quelques temps maintenant, et donc tandis que Nicole Cazoran s'occupait de toute l'annotation du texte, je l'ai moi établi de manière nouvelle.
D'accord, et on peut le lire en français d'aujourd'hui ou bien il faut...
Alors c'est une langue du XVIe siècle, mais qui est, enfin celle de Marguerite dans cette œuvre en particulier, est relativement déjà préclassique, et moi je trouve qu'elle peut se lire...
Elle est lisible.
...assez facilement.
Bon, alors quand je vais vous rajouter que Sylvie Lefebvre est chercheuse associée à l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes au CNRS, je me demande si elle ne nous en rajoute pas un peu sur la lisibilité du texte, mais bon, et encore, je ne mentionne qu'une partie de vos activités, vous avez quantité d'autres activités. Alors, ce livre-là, que nous avons là, pourquoi ce titre, La magie du codex, et le sous-titre Corps, folio, page, pli, cœur. De quelle magie s'agit-il? Il y a trois questions en une.
Oui. Alors, c'est une magie que j'ai voulu afficher, parce qu'il me semble qu'elle est souvent invisible, oubliée, dans un objet qui est un vieil objet. Puisque le codex, donc la forme du livre plié, naît au 1er siècle après Jésus-Christ dans le monde antique, gréco-latin, qu'il est encore notre forme de livre. Et donc c'est un vieil objet, c'est un objet pourtant dont la construction est complexe, et... La magie, ou en tout cas la manipulation un peu magique qu'on peut en avoir, n'est plus tout à fait évidente. C'est ça que j'ai voulu afficher. Donc c'est pas un livre sur l'histoire du livre, mais plutôt, même si j'ai choisi des exemples qui sont aussi bien anciens que modernes, c'est comment le livre nous invite à le manipuler. Et quel type d'entretien à la fois physique et intellectuel on peut avoir avec lui. C'est pour ça qu'il y a ces mots qui sont des mots concrets, hein, corps, cœur, folio, page, pli, dans le sous-titre.
C'est technique, c'est une approche, c'est vraiment la forme du livre.
Oui, alors c'est à la fois technique, mais c'est surtout presque phénoménologique. Comment est-ce que avec cet objet on interfère?
Et vous écrivez, son articulation autour du pli fait sa spécificité, crée sa vie et sa magie. Qu'est-ce qu'il y avait d'extraordinaire? Qu'est-ce qu'on avait avant?
Alors avant, on avait la forme du livre enroulé, en rouleau, ouais. de l'Antiquité. Et on a tout d'un coup, alors c'est pas tout d'un coup évidemment, mais enfin on a inventé ce nouvel objet dont la spécificité c'est d'être fait de bifolio que l'on plie, que l'on encarte les uns dans les autres pour former des cahiers, cahiers que l'on coud entre eux et qui forment finalement notre livre moderne. Donc le livre, c'est un hyperonyme, hein, c'est un mot qui sert à désigner toutes sortes d'objets différents, depuis le wolumen, le livre en rouleau de l'Antiquité.
Ah, le livre en rouleau, c'est le
wolumen. Jusqu'à notre codex, hein, codex donc qui figure dans le titre, qui est, peut paraître évidemment un mot un peu ésotérique ou mystérieux. Finalement, c'est la manière dont, dans la langue latine, on a désigné cette nouvelle forme du livre. Hein, donc, le wolumen, le rouleau avant, le codex après.
Et vous nous proposez une date sur l'apparition, alors, même si c'est petit à petit, j'imagine.
Oui, alors en fait, l'apparition de la nouvelle forme du livre, le codex, c'est le 1er siècle après Jésus-Christ. Il faudra plusieurs siècles pour que le wolumen disparaisse. Et donc, entre le 4e et le 5e siècle, c'est le moment où le codex a définitivement pris le pas sur le wolumen. Et donc le codex, le mot existe en latin, ça désigne d'abord un bloc de bois, puis un bloc de bois dans lequel on découpe des feuillets, et des feuillets dans lesquels, donc des sortes de feuilles de bois dans lesquelles on creuse une cavité, on met de la cire, et c'était donc ce qui servait les tablettes, hein, dont on a des exemples encore dans les musées du Moyen-Âge, en particulier souvent en os ou en ivoire. Ça servait donc à prendre des notes, à faire des comptes, donc ça servait essentiellement à des écritures éphémères, puisque quand on avait utilisé les notes qu'on avait prises, on pouvait relisser la couche de cire et à nouveau prendre des notes. Et donc le codex, notre livre, qui n'est pas donc destiné normalement à disparaître, il est l'héritier des tablettes à écrire de l'Antiquité. Tout d'un coup, on a imaginé que plutôt qu'un support donc sur lequel on allait écrire puis ensuite effacer, comme les tablettes de cire, on allait pouvoir fabriquer avec soit du papyrus, soit du parchemin, des bifolios encartés, donc faire des vrais carnets qui ne seraient plus des carnets de notes, mais des carnets qui allaient devenir des cahiers, les cahiers d'un codex, les cahiers de notre livre.
Et des cahiers qui sont cousus.
Oui, cousu, c'est-à-dire, enfin, il faut imaginer, je ne sais pas si les auditeurs se souviennent de leur cahier d'écolier. Hein, souvent, maintenant, ils sont agrafés.
Oui. Hein,
les bifolios, les feuilles doubles sont encartées les unes dans les autres. Souvent, donc, maintenant, elles sont agrafées, mais autrefois, elles étaient cousues. Et les différents cahiers, ensuite, étaient réunis pour former un livre.
Mais on a encore des livres fin 19e, début 20e, qui étaient cousus.
Bien sûr, bien sûr. Et on peut encore en fabriquer cette manière. Alors maintenant, ils ont tendance à être de plus en plus collés. Hein, les cahiers sont
brochés comme ça.
Voilà, collés, brochés. Mais on peut encore tout à fait trouver des livres cousus.
Alors, pourquoi la religion chrétienne, vous le dites ça, pourquoi la religion chrétienne a soutenu le codex ?
Alors, c'est une hypothèse qui reste d'une certaine manière indémontrable, mais il y a un certain nombre d'indices qui semblent l'indiquer, c'est-à-dire que quand le codex apparaît au 1er siècle après Jésus-Christ, le monde gréco-romain est encore dominé par les religions antiques, évidemment. Et puis, face à la religion chrétienne, il y a aussi évidemment la religion juive. Et on peut avoir l'impression que le wolumen, hein, le livre en rouleau, qui est encore la forme du livre dans les synagogues, hein, les rouleaux de la Torah, que la religion juive s'est trouvée attachée au wolumen, éventuellement les religions antiques aussi, à la vieille forme du livre, tandis que la nouvelle religion, la religion chrétienne, se serait en quelque sorte investie dans la nouvelle forme du livre, dans le codex.
En guise d'introduction, vous reprenez la formule « tourner la page ». Est-ce que cette expression va perdre son sens avec les nouvelles technologies ?
Alors, de façon concrète, oui, d'une certaine manière, hein, puisque dans un livre, enfin, sur un support électronique, que ce soit l'écran de l'ordinateur ou l'écran d'une tablette à lire, évidemment, concrètement, on ne tourne pas la page. La page n'a pas d'existence physique, hein, même si tous les systèmes ont été dotés très vite de page turner, hein, que l'on fasse avec le bout du doigt, avec ou sans bruit ajouté au moment où on tourne la page, qui est une page non physique mais numérique. Donc le geste concret, d'une certaine manière, disparaît, même si on en garde le souvenir. Ce que j'ai montré en introduction, c'est que cette expression de tourner la page, elle apparaît très tôt dans la langue française. On pouvait en avoir une autre version qui était tourner la feuille. Et déjà, entre la feuille et la page, il y a une différence. Oui. La feuille, c'est vraiment le support matériel de l'écriture, avec dans le livre codex un recto et un verso. Mmh. La page, c'est d'abord la surface écrite. Et donc, c'est soit le recto, soit le verso. Et donc déjà, d'une certaine manière, entre la feuille et la page, on a presque l'impression déjà qu'il y a une sorte de dématérialisation de l'expression entre tourner la feuille et tourner la page, même si la langue, en fait, par des fonctionnements rhétoriques liés à la métonymie, la partie pour le tout, donne finalement, rend équivalente l'expression tourner la page et tourner la feuille. Donc, quand j'ai écrit ce livre, c'était pas du tout pour aller dans le sens d'une nostalgie pour le livre physique contre le livre numérique. C'est toute l'histoire du livre qui est allée petit à petit vers cette dématérialisation. Donc toute la technologie liée au livre est allée peu à peu vers cela. Donc on peut pas se lamenter sur les nouvelles technologies qui sont apparues. Elles sont vraiment lié à l'histoire de la technique éditoriale. Mais il me semble que la langue continue à porter donc cette idée du livre codex, hein, et tourner la page. Il suffit de lire n'importe quel journal, on n'arrête pas de tourner la page, c'est-à-dire de considérer qu'une question est terminée, qu'on peut passer à autre chose.
Tout à fait. Et puis, l'évolution des technologies, mais vous le montrez dans votre livre, on passe du livre qu'on posait et qu'on sur une table pour le lire au livre qu'on a à la main et qu'on peut emmener un petit peu partout, alors qu'avant ces gros livres on pouvait pas les emmener partout. Et vous montrez bien toute cette évolution, le livre qui devient plus accessible et qui évolue jusqu'à devenir des objets d'art, par exemple celui que vous avez repris en couverture du livre là. Vous pouvez nous le décrire comme ça?
Alors, les gros livres à poser sur des lutrins, les petits livres qu'on peut avoir sur soi, finalement, la différence des formats, elle a toujours pu exister en fonction des types de textes qu'on copiait dans des livres, mais aussi en fonction de la typologie même des livres. Il y a des livres de conservation, des livres de lecture, des livres plus personnels. Hein. Et celui qui figure sur la couverture, hein, et les éditeurs se sont ingéniés à en rendre le toucher sensible, parce qu'il y a un effet de relief, hein, et on peut sentir le bord de ce livre qui est en forme de cœur quand il est ouvert. Alors, c'est pas un très beau livre, c'est un livre étonnant, hein, par son découpage en forme, en fait, de demi-amande, et quand on l'ouvre, ça donne donc cette image d'un cœur ouvert. C'est un livre de piété. Donc c'est vraiment en effet un livre personnel, un livre qu'on doit avoir toujours sous la main.
C'est vous qui avez choisi cette couverture ?
Alors, on l'a choisi en collaboration.
Alors, moi, j'ai de dire que j'ai particulièrement goûté l'iconographie, la qualité de l'iconographie, et puis le lien entre elle et le texte. Ce ne sont pas des images plaquées pour occuper la page. Il y a eu un travail, je crois, opéré sur ce lien entre les images, les enluminures, etc., les reproductions, et puis le texte que vous avez rédigé. Comment avez-vous sélectionné tout cela ?
Alors en fait, j'ai sélectionné au fur et à mesure de l'écriture, c'est-à-dire que, j'espère, aucune image ne sera considérée comme gratuite. Elles sont toutes là pour, non pas illustrer, pour faire joli dans le livre, mais pour faire voir, à défaut de faire toucher. Sauf pour la couverture, où il y a cet effet de relief. Donc c'est toute image est commentée. Toute image, enfin, il y a un jeu entre les images et le texte, et donc une proximité. Et je remercie vraiment les collaborateurs des Belles Lettres qui ont réussi à faire la mise en page la plus proche du projet que j'avais eu au départ.
Oui, c'est une très belle mise en page avec le texte en vieux français qui d'un certain style, d'une certaine couleur, puis le texte que vous avez rédigé d'une autre. Enfin,
voilà, les citations sont souvent en effet dans un ocre doré. Donc il y a des citations en ancien ou en moyen français ou même en latin, en général avec évidemment des traductions. Mais il n'y a pas que des textes anciens qui soient cités. J'ai, si j'ose dire, moissonné à toute main, aussi bien donc des manuscrits médiévaux parce que j'en suis proche, mais aussi parce que ce sont des livres qui sont des livres pour adultes, où l'image est présente et peut donner à voir, par exemple, des cercles de lecture, un rapport entre le texte et la main. Il y a tout un développement sur les manicules, c'est-à-dire ces petites mains qui viennent dans les marges pour indiquer qu'il y a un passage particulier à remarquer, et donc sont soit des annotations qui remontent au copiste lui-même, qui veut indiquer aux lecteurs et aux lectrices ce qu'il y a de remarquable, soit ce sont des notes déposées par les lecteurs et les lectrices, et donc pour l'histoire de la lecture, savoir ce qui a pu intéresser, évidemment c'est toujours capital. Mais dans la typographie, les imprimeurs ont très vite développé cette petite icône de la main qui a servi, qui a continué à servir à l'annotation des textes. Et plus généralement, sont les mains prises dans les pages du livre qui m'ont intéressée, puisqu'on se sert de ses mains, de ses doigts, pour marquer les pages.
Oui, ça vous l'a... Et d'ailleurs, il y a une reproduction d'un tableau, je crois, où on voit les doigts qui... Ben, vous l'avez sous les yeux,
c'est
là.
C'est un portrait de jeune homme du Bronzino, qui est conservé à New York, et tout récemment je suis allée voir l'exposition Naples au Louvre.
Oui.
Et il y avait une peinture d'un Italien à peu près contemporain de Bronzino, dont le nom m'échappe, Rosso Fiorentino, un portrait de jeune homme, et dans la petite dans le cartel, on se demandait bizarre position avait une de ses mains. Or, c'est exactement parce que le livre est très peu visible ou très peu lisible dans cette peinture. Or, ce qui m'a frappé, en fait, c'est qu'il a exactement la même configuration manuelle, si je puis dire, que dans le portrait du Bronzino. Donc, c'est en fait sa main qui marque les pages.
Et nous-mêmes, nous le faisons. Donc,
bien
nous
sûr,
sommes là,
bien
tiens,
sûr.
On va garder ci, on va garder ça. Et la première illustration... ou image, représente une scène de lecture. Comment lit-on ? Alors ça m'a surpris parce que on a quelqu'un, enfin il y a trois personnes qui sont en train de lire. Il y en a un sur le côté, il y en a un qui lit, on a l'impression qu'il lit à l'envers. Comment lit-on ? Dans quel sens ? Et puis, on lit à voix basse ou à voix haute ?
Alors, l'histoire de la lecture a ses spécialistes, ce que je ne suis pas, hein, mais là, ce qui était intéressant pour moi, c'était cette ronde de lecteurs, en effet, autour d'un livre ouvert, hein, sur une table. On peut imaginer que celui qui est face au livre le lit à l'endroit, hein, mais on peut aussi imaginer qu'il lit à l'envers et que celui qui, à qui on ouvre le livre pour qu'il le lise à l'endroit, c'est précisément le lecteur réel et pas le lecteur représenté. Et puis au-delà de ça, évidemment, c'est un groupe de lecteurs. Donc bien sûr, on a longtemps lu à haute voix, en groupe, quels que soient les milieux sociaux. Il y a un certain nombre de scènes de dédicaces, hein, sur lesquelles je m'attarde au début, qui montrent, hein, bien entendu, et c'est le cas pour le manuscrit qui a été illustré par Jean Clouet, hein, où le traducteur de Diodore de Sicile lit à haute voix devant François Ier la traduction qu'il lui dédicace. Donc, dans des cercles de lecteurs où un seul sait lire, eh bien, évidemment, tout le monde profite de la lecture à haute voix, mais dans des cercles prestigieux comme celui de François Ier, on peut aussi avoir, évidemment, des lectures qui sont des moments de sociabilité aussi.
On avance. La double page, c'est une révolution ?
Alors, la double page, c'est une révolution qui est liée à la construction même du codex. Dans le Wolumen, chaque lecteur, suivant le plus ou moins, suivant la manière dont il déroulait le livre en rouleau, se créait à chaque fois sa propre page. En ouvrant donc plus ou moins large, il avait 2, 3, 4 colonnes de texte devant lui. Mais il n'y avait pas de... Enfin, la page, ça voulait dire la colonne de texte.
C'était des colonnes. Voilà. Vous parlez d'ailleurs deux colonnes par page, voire quatre.
Oui, alors dans le codex, ce qui est devenu très vite la norme, c'est 2 colonnes de texte par page, mais il y a eu des modes et des formats de livres qui ont autorisé 3, voire 4 colonnes. Et ce qui donc est révolutionnaire avec le codex, c'est que la double page, elle est créée et figée au moment de la construction du codex. C'est-à-dire que là, le lecteur, à chaque fois qu'il ouvre le livre, il est devant quelque chose qui a été préparé pour lui. Ça n'est plus lui qui ouvre plus ou moins large le texte.
Alors on aurait pu concevoir d'autres présentations, il y en a d'ailleurs, le livre papillon, le livre chinois en accordéon, vous en faites d'ailleurs des schémas.
Alors les schémas sont repris à un de mes anciens collègues de l'Institut de recherche et d'histoire des textes, Denis Muserel, mais en effet... à partir du Wolumen, les Chinois dans l'ancien temps ont imaginé passer vers une forme de livre plié. Hein. Mais à partir du Wolumen, si on plie de façon régulière un Wolumen aux endroits où il y a des entre-colonnes, donc du blanc entre les colonnes de texte, on crée un livre accordéon. Donc on pouvait plier autrement que nous ne l'avons fait. Avec le codex. Même chose pour le livre papillon ou le livre à sac. Là, c'est différent, c'est-à-dire qu'on a des bifolios, comme dans notre codex. La différence, c'est qu'on n'encarte pas les bifolios. Donc le texte reste copié de manière ou imprimé de manière continue, alors que dans le codex, c'est plus acrobatique parce que par le système de l'encartage, en dehors du bifolio central, rien n'est copié ou imprimé de façon continue. Donc il y a tout un jeu sur la coupure et la discontinuité dans le codex.
Et alors, on commence, enfin vous expliquez que les règles typographiques de présentation des ouvrages, ces règles, on les retrouve encore aujourd'hui d'ailleurs.
Oui, alors là, c'est entre le manuscrit du Moyen-Âge et les premiers imprimés, petit à petit se sont établies de nouvelles habitudes. Dans le manuscrit et dans les premiers livres imprimés, souvent c'était à la fin du livre, dans ce qu'on appelait le colophon, qu'on pouvait trouver soit le nom du copiste, la date à laquelle il avait copié, soit pour l'imprimeur, son nom, le lieu où il avait imprimé, etc. Et petit à petit, ces informations ont migré vers le début du livre pour constituer la page de titre.
C'est la page de titre.
Voilà.
Hein, c'est ça.
Qui n'existait pas dans le manuscrit, en tout cas, pas de la manière dont ça s'est institutionnalisé dans les imprimés.
Et puis, pour préparer l'émission, on a échangé par téléphone et on dit pourquoi imprimer un livre et commencer en recto, en belle page, et les images sont au verso. Et vous me dites, bon, ça n'a pas toujours été si simple que ça.
Ah, alors, c'est simplement que aujourd'hui, dans les manuels de typographie, on a tendance à dire qu'il y aurait une belle page, c'est-à-dire la page de droite, la page au recto, au prétexte que l'œil tomberait plus volontiers directement sur la page de droite. Les livres anciens, que ce soit des manuscrits ou des imprimés, montrent qu'il n'en a pas toujours été ainsi, et que très souvent, en particulier dans les très beaux livres de piété, très imagés, l'illustration figure sur un verso. Mais de la même manière, donc, des livres imprimés peuvent commencer soit une nouvelle partie, soit un nouveau chapitre sur un verso. Et il me semble que c'est dans le courant du 19e siècle qu'on va prendre l'habitude petit à petit de commencer, comme on le dit, en belle page, mais que cette belle page, elle n'existait pas autrefois, et que dans le manuscrit en particulier, ce qui était l'unité physique principale, c'était la double page ouverte.
Mmh. Je crois que vous reprenez d'ailleurs une réflexion de Victor Hugo, qui est mécontent sur la présentation d'un de ses livres.
Oui, parce que il proteste en disant que, je crois que c'est dans l'année terrible, l'imprimeur a voulu sans doute économiser du papier, gagner de la place, et donc il commence à peu près n'importe où les nouvelles parties.
Oui, donc il n'est pas content.
Hein, non, il n'est pas content.
Le relevez. Alors, comment ouvre-t-on un livre ?
Alors, c'est le geste, donc un geste complètement différent de celui qu'on avait avec le livre rouleau, où il s'agissait de dérouler puis de réenrouler. Hein. Là, on ouvre cet objet par la tranche extérieure, par la tranche qu'on appelle la tranche de gouttière. Hein. Il y a tout un jeu sur les ouvertures, parce que précisément, on va pouvoir créer au début du livre des espaces qui sont marqués comme des débuts, avec des images liminaires, avec ensuite des frontispices, des frontispices qui, entre la fin du Moyen-Âge et le début du XVIe siècle, vont pouvoir prendre la forme d'arc de triomphe.
Ah oui, c'est de l'architecture.
C'est de l'architecture, tout à fait. Ouais, donc ça fonctionne comme des portes, comme des seuils.
Tout à fait. Et puis il y a un plaisir, par exemple, c'est Walter Benjamin qui s'exprime sur l'ouverture du livre et le plaisir du lecteur.
Oui, alors il rappelle dans un de ses textes le plaisir qu'il avait enfant à parcourir une parution pour la jeunesse, qui paraissait au moment de Noël. Et donc, comme dans une sorte de palais ou de château qu'on découvre, il montrait la forme un peu labyrinthique des différentes parties de ces recueils, et en particulier des histoires qui s'arrêtent à un moment, qui doivent reprendre plusieurs pages plus loin, et qui fonctionnent donc comme des sortes de souterrains dans le livre qu'on perd et qu'on retrouve de loin en loin.
Alors, le livre se complexifie, il devient magique. Vous présentez le livre de sable de Borges. Vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'est ce livre de sable de Borges?
Alors, parmi les entrées possibles dans le livre, il y a des entrées qui sont marquées comme des labyrinthes. Hein, et avant de citer Borges, je citerai volontiers Charles Nodier, qui est un auteur que j'aime beaucoup, avec La Fée aux miettes, d'autant plus qu'il y est question du fil des pages. Donc c'est un hommage à votre au nom de votre émission. C'est au début donc de La Fée aux miettes où il s'adresse à ses lecteurs et où il leur dit: si vous n'étiez pas comme moi à vouloir suivre les aventures de Michel, j'ai le bonheur de tenir le fil d'Ariane à votre disposition. Faites passer rapidement sous le pouce de la main droite, ou même sous celui des deux mains qu'il vous plaira d'employer si vous êtes ambidextre. Faites-y passer, dis-je, en rétrogradant les feuillets que vous venez de parcourir. Cela sera facile et bientôt fait, surtout si vous avez le geste assez sûr et assez agile dans votre empressement pour en ramener plusieurs à la fois. Vous arriverez ainsi au frontispice, à la garde, à la couverture, c'est-à-dire à la porte d'entrée de ce dédale ennuyeux, et vous pourrez faire voile vers Naxos. C'est-à-dire que en faisant défiler le fil des pages de façon rétrograde, on peut retrouver la porte d'entrée qui devient la porte de sortie. Et donc il y a évidemment ici une coquetterie de Charles Nodier qui dit: si vous ne voulez pas entrer plus loin dans le labyrinthe, vous pouvez revenir au tout début. Et donc, le fil des pages est lié à la tranche du livre qui permet donc de le parcourir très vite, en avant ou en arrière. La tranche, on l'a dit, le codex, c'est à la fois un livre qui est plié, encarté, mais aussi coupé. Quand on plie une feuille de papier en plusieurs plis, ensuite le lecteur va être obligé d'utiliser un coupe-papier pour ouvrir son livre. Ça a été le cas pendant très longtemps.
Oui, c'est Mallarmé et Gautier qui en parlent.
Tout à fait.
Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rare. Je crois qu'il y avait José Corti qui avait conservé cette technique.
Oui, parce qu'il continuait à imprimer des cahiers qui ensuite étaient donc pliés et qui demandaient encore à être coupés pour être lus. Et donc, il y a en effet deux citations qui érotisent le geste même de l'ouverture et de la prise de possession, au sens propre du terme, du livre. Et le livre, donc, le livre de sable, si j'ai encore une seconde, le livre de sable de Borges, c'est un livre impossible, mais un livre qui, à chaque fois qu'on l'ouvre, est différent. On ne peut jamais s'y repérer, c'est pour ça que c'est comme un livre de sable, sous le pouce, quand on cherche, on a l'impression que les pages elles-mêmes semblent sourdre du livre. Donc, on est toujours face à un livre différent.
Alors, on a aussi, au fil des pages de votre livre, le livre est animé par le lecteur. On voit les tirettes, les décors, les costumes qu'on avait dans nos livres d'enfants. Enfin, je crois que j'en ai encore. Mais vous montrez aussi le côté très moderne. Il y a, j'ai beaucoup aimé la couverture de... La colombe, là, le 32e salon du livre, c'est-à-dire un livre ouvert et puis une colombe.
Oui, alors c'était une image où on a hybridé, en fait, une colombe et un livre déployé de toutes ces pages blanches qui forment le reste des plumes de l'oiseau. Et de fait, on a un peu l'impression que le livre, c'est ce que j'ai voulu dire en terminant, donc dans une fausse conclusion qui passe de l'architecture du livre à son anatomie, que le livre est capable de voler de toutes de toutes ces ailes, hein, de toutes ces plumes qui sont formées en fait par ces pages.
Et peut-être de nous faire voler, de nous faire rêver. C'est aussi une
tout
des fonctions fait. Du livre. Bah, écoutez, Sylvie Lefebvre, merci pour ce livre dense. Je rappelle l'iconographie, les références, la clarté dans l'écriture, un beau parcours dans ce qui nous est commun autour de cette table, le livre. Vous avez des projets, d'autres projets d'écriture ?
Rien qui ressemble à ce livre, sinon que j'ai réécrit sur les livres en forme de cœur, parce que j'en connaissais deux au moment où j'ai écrit La magie du codex. Maintenant, j'en connais un nombre un peu plus important. Donc rien qui ressemble véritablement à ce livre, mais un projet qui me tient à cœur, c'est une anthologie de poésie lyrique des 14e et 15e siècles, textes et traductions, que j'espère publier dans quelques temps.
Chez qui ?
Ce sera au Livre de Poche.
Ah, on vous invitera là, c'est intéressant aussi de mettre à portée des gens, parce que souvent c'est des livres très, très pointus, parfois d'un certain coût, et là le mettre à la portée des gens, je trouve ça tout à fait intéressant. Merci encore, et pour clore cet entretien, nous écoutons Juliette, la chanteuse Juliette, nous narrer ses aventures avec le livre dans À voix basse. Frédéric.
J'ai un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction ? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close. Qui donc pouvaient être ces gosses, cette invasion de petites filles ? Que me voulaient ces carabosses qui leur tenaient lieu de famille ? J'ai vite compris à leur manière, à leurs habits d'un autre temps, que ces visiteurs de mystère étaient sortis de mon roman. Ils jacassent à voix basse dès que j'ouvre mon bouquin. Je délivre de leurs livres des héros, des vauriens qui surgissent, m'envahissent, se vautrent sur mes coussins, qui s'étalent et déballent d'un jeu sale et chagrin. Ils me choquent, m'interloquent et me parrainent à témoin de leurs vices, leurs malices, de leurs drôles de destin. Mauvais rêve qui s'achève dès que je lis le mot fin. À voix basse, ils s'effacent quand je ferme le bouquin. À voix basse, ils s'effacent quand je ferme le bouquin. Depuis, dès que mes yeux se posent entre les lignes, entre les pages, mêmes effets, mêmes causes, je fais surgir les personnages. Pour mon malheur, je lis beaucoup et c'est risqué, je le sais bien. Mes hôtes peuvent aussi être fous, ou dangereux, ou assassins. J'ai fui devant des créatures, repoussé quelques décadents, échappé de peu aux morsures d'un vieux roumain extravagant. J'évite de lire tant qu'à faire les dépravés, les malades, les histoires de serial killers, les œuvres du marquis de Sade. Ils jacassent à voix basse dès que j'ouvre mon bouquin. Je délivre de leurs livres des héros, des vauriens qui surgissent, m'envahissent, se vautrent sur mes coussins, qui s'étalent et déballent linges sales et chagrins. Ils me choquent, m'interloquent et me prennent à témoin de leurs vices, leurs malices, de leurs drôles de destin. Mauvais rêve qui s'achève dès que je lis le mot fin. À voix basse, ils s'effacent quand je ferme le bouquin. À voix basse, ils s'effacent quand je ferme le bouquin. N'importe quoi qui est imprimé me saute aux yeux littéralement. Et l'histoire devient insensée car je ne lis pas que des romans. Ainsi j'ai subi les caprices d'un Apollon de Prospectus. J'ai même rencontré les trois Suisses et le caissier des emprunts russes. Un article du code pénal poilu comme une moisissure s'est comporté comme un vandale se soulageant dans mes chaussures. Ce démon qui vient de filer, ça ne serait pas, je me le demande, un genre de verbe irrégulier sorti d'une grammaire allemande. pourrais bien cesser de lire pour qu'ils cessent de me hanter. Brûler mes livres pour finir dans un glorieux auto-da-fé. Mais j'aime trop comme un opium ce rendez-vous de chaque nuit. Ces mots qui deviennent des hommes, loin de ce monde qui m'ennuie. Malgré les monstres et les bizarres, je me suis fait quelques amis. Alors j'ouvre une page au hasard d'un livre usé que je relis. Et puis j'attends, je dois l'avouer, au coin d'un chapitre émouvant, que vienne d'un prince ou d'une fée, un amour comme dans les romans, comme dans les romans. À voix basse, qu'il me fasse oublier tous mes chagrins.
Bien, donc depuis le début de l'émission, nous mentionnons les titres des ouvrages commentés. Vous pouvez les retrouver sur le blog du groupe Communes de Paris et vous pouvez les commander chez Publico, la librairie de la Fédération anarchiste, 145 rue Amelot. N'hésitez pas. Dominique, allô?
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Donc, troisième temps de l'émission, les romans de la vie. Alors, tu nous parles aujourd'hui... Les Contemplés de Pauline Hillier, qui est ouvrage sorti à la Manufacture des Livres et qui a eu un prix, je crois.
Oui, le prix Louis Guillou, mm-hmm. un prix qui récompense un livre humaniste, conformément à l'auteur de ce prix.
Oui.
Alors.
Et Louis Guillou avait écrit, il a écrit plusieurs livres, mais notamment oui. Le Sang Noir.
Le Sang Noir, je pense que vous en avez parlé déjà.
Oui, j'en ai déjà parlé. Mmh. Et puis La Maison du Peuple, qui est à Saint-Brieuc. Bon, alors donc là, de quoi s'agit-il?
Alors, c'est un passage de la vie de Pauline Hillier qui s'est déroulée en mai 2013. Elle fait partie du groupe féministe international Les Fémènes. Et donc, elle a manifesté ce jour-là, seins nus, devant le palais de justice de Tunis, en soutien à Amina Zboui, qui est une militante anarchiste et aussi fémène.
Alors, ils sont partout, ces anarchistes, c'est incroyable.
Est interdit en Tunisie. Alors, Pauline connaissait le risque et l'assume totalement. Alors, donc, elle va être arrêtée. C'est un récit carcéral qui dépasse un peu le simple récit carcéral. Moi, je considère que c'est plutôt du journalisme littéraire. Il y a une forme romanesque, mais aussi un militantisme, puisqu'elle va beaucoup parler de la condition des femmes en Tunisie. Alors certes, l'enfermement ne dure qu'un mois, mais l'auteur a mis 10 ans à écrire ce livre, tant le sujet est fort.
C'est-à-dire ?
D'abord, on va voir que c'est une prison quasiment médiévale. Ah oui. Alors, d'abord, son arrivée, elle arrive donc à la Manouba, c'est la plus grande prison pour femmes de Tunisie. Elle va se retrouver dans un pavillon et dans une salle commune avec 28 autres femmes. Elle ne comprend pas les conversations et elle n'a pu garder sur elle qu'un livre, Les Contemplations de Victor Hugo, d'où le titre Les Contemplés.
Voilà.
Et sur lequel elle va prendre des notes, car elle n'a pas de papier. Alors, je vous lis juste l'arrivée quand elle est arrêtée. Il est 20h, le soleil se couche sur Tunis. Dans la voiture, un flic me met en garde. Là où je vais, ça ne va pas être facile. Il va falloir rester sur ses gardes et me méfier de tout le monde. Il y a des tueuses, il faut faire attention. Il ne faut pas leur faire confiance. Elles te dépouilleront, elles te frapperont, ou même pire, il y a des folles là-bas.
Eh ben...
Oui, alors on va voir que c'est pas tout à fait ce qui est attendu, puisque au contraire, elle va vivre une grande solidarité avec ses femmes. Alors, quand je disais que c'est une prison médiévale, donc des repas infâmes servis à même le seau, une salle grouillante de cafards, des souffrances physiques par manque d'activité, de malnutrition, des humiliations en tout genre de la part des gardiennes féroces et inhumaines, Et donc, on va suivre la narratrice hein, au plus près de... Elle va apprendre les codes hein, de cette prison. Alors, j'ai bien aimé aussi le passage sur la bibliothèque parce que elle demande, la narratrice demande d'y accéder. Or, personne n'a la clé. Personne n'avait pensé à demander cet accès. Donc, la clé a été égarée. Et bon, ils mettent une semaine pour la retrouver. Et quand on retrouve la clé, en fait, c'est pas une bibliothèque, c'est un véritable capharnaüm. Hein, la cellule est un... Capharnaüm.
Alors, on est centré sur les femmes tunisiennes.
Oui, oui, oui. Alors, c'est pas l'histoire. Bien sûr, c'est une occidentale. Elle a été arrêtée aussi avec ses consoeurs, deux autres, une française, une allemande. Mais là, elle va braquer le projecteur sur les femmes tunisiennes. Alors, grâce, on va dire, elle lit les lignes de la main. Grâce à ça, elle va pouvoir. Communiquer avec ces femmes et connaître ce qui leur est arrivé. Alors, il y a bien sûr, il y a des meurtrières, des infanticides, mais beaucoup de femmes battues hein, qui ont tué leur mari en l'état de légitime défense, des femmes adultères, puisque là-bas, c'est encore, c'est la femme qui part en prison et pas l'homme, des prostituées, des femmes de mauvaise réputation, une jeune fille qui voulait étudier, mais dont les parents ne voulaient pas, donc ils la font enfermer dans cette prison, des peines disproportionnées, et puis on peut y ajouter, alors il y a des erreurs judiciaires, il y a des coups montés, des policiers ou des juges incompétents, le machisme, le racisme, le mépris de classe, enfin, elle a vu toutes les facettes du mépris et des abus de pouvoir.
Non, c'est un texte ou un roman particulièrement oui. Dur, alors.
Non, alors, on pourrait s'attendre à ce qu'il soit dur, mais elle a une façon de raconter, c'est pour ça que je dis c'est du journalisme littéraire. C'est jamais pessimiste. Au contraire, il y a une pulsion de vie, il y a de l'humour. Elle fait surgir du cachot de la lumière et de la compréhension. Les détenus se donnent la main, elles cèdent, elles se coiffent, elles se maquillent. Et donc, bon, on y rencontre toute une sororité collective. Hein. Même dans les pires situations, on peut encore s'entraider. Hein. Donc c'est vraiment... ce livre a une portée universelle, hein, parce qu'il on peut rentrer, il y a encore de l'humanité dans les pires situations. Je termine juste par un beau passage. Toutes mes visions du bien, du mal, de la justice, de la morale sont remises en question. Les cartes de la vie sont rebattues, tout est à revoir. Je me défais peu à peu des préjugés moraux que je brandissais jadis avec l'arrogance d'un petit prêtre. Je désapprends. L'humanité s'est présentée à moi nue dans ce qu'elle a de plus brut et de plus sincère, sans rien dissimuler de ses contradictions et de ses zones grises, faisant voler en éclats tous mes repères et me poussant à une introspection philosophique que je n'avais pas vue venir. Quand je promène mes yeux dans la pièce, je ne suis plus capable de distinguer les bonnes des mauvaises, les innocentes des coupables, les gentilles des méchantes. Ça ne marche plus comme ça, et je comprends que la vie non plus ne marchera plus jamais comme ça. Voilà,
beau texte. Un beau texte, oui, un livre qui donne envie de le lire, tout à fait.
Oui. Hein,
oui. Tu nous rappelles le titre, Les Contemplés ?
De Pauline Hillier, oui. À la manufacture des livres.
Voilà. Et alors, le prochain livre du mois de janvier.
On change totalement de registre. Oui. Donc, c'est Robert Ménas. Le livre s'appelle La Capitale, paru chez Verdier en 2019. Donc, c'est une critique féroce et humoristique de l'Union européenne. C'est un auteur autrichien. Il vient d'avoir le prix du livre européen pour la suite de ce roman. Donc, c'est pour ça que je le présente.
D'accord. Et puis, comme ça, ça tombe bien, puisqu'on a des élections européennes 6 mois après.
Oui.
Voilà.
Oui.
Donc, ça, c'est parfait. Eh bien, écoute, profite encore de tes quelques jours de vacances, là. Et
oui.
Puis, reviens-nous après. Merci.
Allez, au revoir.
Alors... Troisième temps de l'émission, on l'a dit, on commence par les romans de la vie, c'est un peu une forme de varia, on va chercher comme ça, comme chez les bouquinistes, en furetant dans les caisses. Et là, je voudrais vous parler d'un livre de Philippe Pivion, « Les assassins de la paix », paru aux éditions « Le temps des cerises » en 2023. C'est une belle émotion de retrouver un ami de 30 ans, un vrai, hein, perdu de vue en raison de nos parcours de vie. Et le stand du temps des cerises, une maison d'édition sympathique, se trouvait à la journée de l'Institut d'histoire sociale de la CGT à la mi-novembre. Donc j'y suis allé parce qu'il y avait quantité d'autres éditeurs. Et là, je reconnais Philippe Pivion, militant chevronné, spécialiste du logement social, qui présentait son livre « Les assassins de la paix ». Comme le souligne la quatrième de couverture, Philippe a publié d'autres romans historiographiques pour explorer les dessous de la vie sociale et politique de la Troisième République. Je me méfie toujours de ces textes qui mêlent histoire et roman, l'un a toujours tendance à l'emporter sur l'autre. Mais en l'espèce, l'équilibre est bien respecté, et je cite toujours la quatrième de couve. Quand on lui demande pourquoi il n'écrit pas plutôt des essais historiques, il répond, Philippe Pivion, que le roman permet d'aller plus loin, de toucher plus profondément la sensibilité du lecteur, de mieux l'introduire dans la vie de l'époque sans le priver de juger. Là où l'essai peut gagner d'ennuis mortels le lecteur, le roman relève par un côté piquant l'attention de ce dernier. De quoi s'agit-il ? Eh bien, la Première Guerre mondiale s'est achevée dans un bain de sang, comme elle avait commencé avec l'assassinat de Jean Jaurès, que nous revivons dans le livre. Au siège de l'Humanité, dirigé après-guerre par Marcel Cachin, les journalistes rusent avec la censure dans le choix des articles. Il ne faut pas croire qu'après la guerre, la censure n'existait plus. Cachin se fait passer pour un centriste entre les différentes sensibilités. Bah, on connaît le parcours après. Hein. Le héros du roman, Daniel Renoux, journaliste à l'Humanité, fréquente aussi les salons de la bourgeoisie de la rue de la Boétie. Les ambiances sont très bien rendues et vous lirez les propos des jusqu'au boutistes à Berlin. Eux qui restent à Paris, mais pour faire du fric en dirigeant leurs entreprises d'armement, mais qui souhaitent que les soldats aillent à Berlin. Philippe Pivion nous fait rentrer, en s'appuyant sur une solide documentation historique, dans les négociations préalables au traité de Versailles, d'où les assassins de la paix, vous verrez. Un élément de départ, la discussion des 14 points du président américain Wilson. De son côté, Clémenceau veut faire payer l'Allemagne. Vous retrouverez tous les acteurs, les représentants des pays engagés dans le conflit. On comprend mieux la dimension mondiale de cette guerre dont l'essentiel se déroule sur le sol français. Mais pas que. En germe, l'idée de la SDN, le côté religieux de Wilson, alors quel choc avec l'anticlérical Clémenceau. Tiens, une image qui va rester, celle de Pétain, vous savez le maréchal, commandant en chef des forces françaises, belle prestance sur son cheval blanc, elle permet de comprendre une partie de la suite de l'histoire et de l'image de ce maréchal dans une société de la Seconde Guerre mondiale. Vous vivrez aussi la répression des spartakistes en Allemagne en 1919. Un mot aussi sur Louise Michel et Clémenceau. Celui-ci sera victime d'un attentat, on l'oublie un peu, mais Clémenceau a été victime d'un attentat. Alors, automatiquement, le journal Le Libertaire, qui aujourd'hui c'est Le Monde Libertaire, on va dire ça comme ça, et à l'époque c'était Le Libertaire, fera l'objet d'une perquisition dans la logique de l'époque. Vous verrez aussi, vous lirez aussi, le procès de Villain, l'assassin de Jaurès, qui se traduit par une relaxe, suprême insulte. Les travailleurs sentent qu'ils sont floués, et les pages consacrées à ce pays qui prône la révolution, le communisme, montrent bien l'inquiétude fondamentale, évidemment il s'agit bien de la révolution russe, hein, de l'inquiétude fondamentale des pays occidentaux, comme si nous, anarchistes, nous n'avions déjà aucune illusion sur cette dictature soi-disant du prolétariat. La politique générale côtoie la vie populaire dans ce Paris qui l'est encore. Le quartier de la Presse, la rue du Croissant, la rue d'Uzès. Vous trouverez toutes ces pages et vous trouvez ces ambiances. Des débats s'installent pour l'avenir, comme l'égalité entre les personnes, quelle que soit la couleur de peau, avec le sociologue noir américain Dubois. La colonisation avec un certain Ho Chi Minh qui apparaît là aussi. Et dans d'autres pages, vous retournerez aux négociations qui n'en finissent pas. C'est long. Dans quel but ? La paix ou la réparation ? L'Allemagne paiera. Évidemment, cette formule, nous en connaissons la suite, nous connaissons la suite de l'histoire et nous voyons bien les causes et les conséquences de ces négociations, les assassins de la paix. Philippe Pivion a choisi un titre fort, mais il y a de cela dans ces pages qui contiennent les désastres à venir. Philippe Pivion, Les assassins de la paix, aux éditions Le Temps des Cerises 2023. Et comme Philippe a l'intention de poursuivre la rédaction de ces textes, on attend bien évidemment le prochain avec impatience. Dernier livre. Eh oui, je vais vous présenter le livre de notre amie Sandrine Malika Charlemagne que nous avions invitée en mai dernier pour parler poésie. Là, nous la retrouvons avec un livre au titre « La traqueuse ». Une sacrée traqueuse de mots, de style et de genre, Sandrine Malika. Avec ce nouveau livre, elle change de style. Dans le précédent, c'était un recueil de poèmes, la petite ouvrière métisse. Vous vous rappelez, elle avait lu un certain nombre de textes. Là, elle change de style, de ton, de thème. Et je veux dire, j'adore. C'est le style fantasy, style Asimov, Jack Vance, de Tolkien aussi. Écoutons un peu le l'Incipit, qui, page 19. Le requiem vibrait dans l'air cristallin de la pièce. Dans sa tunique blanche à ceinture d'or, l'index de la cité se tenait hiératique sous l'éclat du soleil. Sa figure volontaire, à peine marquée d'une ride de soucis, se tourna vers l'envoyé, dont les vêtements couleur de nuit rayonnaient d'une infime lumière bleutée. L'ovale pâle de son visage, nimbé de cheveux noirs, penché sur le malade étendu sur le lit, respirait une grâce d'un autre monde. Ses yeux, surlignés de longs sourcils, brûlaient d'un éclat intérieur. Il y a des accents poétiques, oui, la poétesse n'est pas loin, mais nous entrons dans des mondes, ai-je dit. L'intermonde, plutôt inquiétant, la cité, le tréfonds, comme une descente aux enfers. On a l'impression de relire certains passages, toute proportion gardée bien sûr, de Virgile, de Dante. On a l'impression de redécouvrir les gravures de Gustave Doré. Page 45. L'intermonde est une sorte de zone tampon. Un premier anneau qui borde la Terre, même si en réalité les deux mondes s'interpénètrent par capillarité. Les âmes s'y retrouvent, après la mort, à moins qu'un guide ne se soit présenté pour les conduire lors du grand saut, dans la cité ou le tréfonds. L'intermonde est un univers triste et mélancolique qui baigne dans un crépuscule éternel, à la frange duquel ont été édifiées la cité et ses multiples quartiers. Vous lirez la suite. Mais il y a aussi une insertion du monde actuel. Oh, c'est assez amusant. Bon, on a quand même dans un livre de ce type, on trouve la DGFP. La DGFP, la Direction Générale des Finances Publiques. Bah, vous comprendrez mieux parce qu'il y a la froideur de la prise du pouvoir dans une entreprise. Pas de cadeau. On bascule d'un monde à un autre, on est dans des mondes. Pas de cadeau, et d'ailleurs, pourquoi faire des cadeaux? Avec l'autrice, vous alternerez entre le monde fantasy et celui de l'entreprise actuelle. Des chapitres courts, au style vif, qui invitent à passer au suivant. Un chapitre relatant la lutte contre les loups-garous, les ombres. Bah, vous découvrirez pourquoi. Puis un autre, consacré au monde pourri de l'entreprise et des relations entre les capitaux, les conflits d'intérêts, et in fine les relations extra-conjugales, voire simplement la chair, sans aucun sentiment. Pourtant, le livre partage une part de magie avec le lecteur. Un vrai partage, vous ne lâchez pas le livre. Vous êtes à la recherche d'un certain Martin H., philosophe, à la demande d'une certaine Anna. Ben, je crois que vous devinez la suite. Hein. Bon, tiens, Simone Veil apparaît au fil des pages. Simone Veil, la philosophe, bien sûr. Hein. Tout comme Jean de la Croix. Un vrai parcours spirituel. Et puis, vous vous rentrez dans la bibliothèque. Ah, c'est toujours intéressant. Bah, au fil des pages, on aime bien aller voir ce qui se passe dans une bibliothèque. Et là, vous trouverez ici, je cite, plus de livres que dans la plus grande bibliothèque de l'autre côté du monde, indiqua leur guide. La bibliothèque du Congrès à Washington renferme environ 32 millions de volumes. Exact. Mais ici, nous avons des livres qui n'existent plus dans le monde des vivants, comme le second tome de la Poétique d'Aristote, ainsi que des livres qui n'y ont jamais été écrits, bien que des auteurs sont morts avant d'avoir épuisé tout leur génie. Une fois de l'autre côté, certains ont continué leur travail. Bref, vous êtes dans un monde curieux, et c'est intéressant, c'est amusant. Sortez et vous vivrez une bataille homérique entre l'héroïne et des ombres. Vous verrez pourquoi. Et Martin Heidegger, et oui, il est là dans ce monde entre deux. Il admet ses erreurs et je vous laisse découvrir ce moment. Et les êtres retrouvent leurs sentiments. Jusqu'à quand ? Eh bien, découvrez ce livre. Il est évidemment chez Publico et notre ami Alain, qui est un habitué de Publico, si il est présent, il vous le trouvera immédiatement. Je rappelle le titre, La Traqueuse, de Sandrine Malika Charlemagne, publié aux éditions Velvet en 2023. Je n'ai pas parlé de la couverture, mais la couverture aussi est très intéressante. Vous verrez que cette traqueuse est accompagnée d'un chat. C'est vraiment très, très amusant. Je vous invite à découvrir le monde libertaire de janvier 2024, qui va sortir dans 2-3 jours. Là, il est particulièrement riche et sa publication était un défi que nous avons relevé, le comité de rédaction du Monde libertaire et l'ensemble de la Fédération anarchiste. Oui, le Monde libertaire en mensuel va continuer. Voilà, chers amis, des livres que nous souhaitions vous présenter. Et j'insiste particulièrement sur le livre sur la magie du codex que moi j'ai beaucoup beaucoup aimé. Et c'est pas parce que l'auteur est toujours devant moi. Donc c'est fini pour aujourd'hui dans Au fil des pages. Merci pour votre écoute, votre fidélité. Dans 15 jours, et oui, le mercredi 10 janvier 2024, nous recevrons Alain Eludu pour parler poésie et particulièrement de son livre L'allure des chemins. D'ici là, bonne lecture. L'équipe d'Au fil des pages vous souhaite, ni Dieu ni maître, toujours avec Léo Ferré. À bientôt et au plaisir de partager. Frédéric.
La cigarette sans cravate. Et le remords des coups de jatte, avec la peur qui tend la patte. Le ministère de ce prêtre, et la pitié à la fenêtre, et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître. Le fardeau blême qu'on emballe, comme un paquet vers les étoiles, froide sur la dalle, et cette rose sans pétale, cet avocat à la serviette, cette aube qui met la voilette, pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Ces voix que l'on dit de justice, et qui poussent dans les supplices, et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service. Cette procédure qui guette ce que la société rejette sous prétexte qu'ils n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Cette parole d'évangile
fait plier les imbéciles et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. Ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu.
Radio Libertaire 89.4.
Bonsoir, vous êtes bien à l'écoute de Radio Libertaire 89.4 MHz sur la bande FM. D'ici quelques petites secondes, une petite dizaine, vingtaine de secondes environ, vous pourrez écouter l'émission Femmes Libres. Voilà, bonne écoute en vous souhaitant une bonne soirée. Au revoir.
Femmes libres.
Femmes qui se libèrent.
Femmes qui prennent la parole.
Femmes qui témoignent.
Femmes qui créent.
Femmes qui se révoltent.
Femmes qui luttent.
C'est Femmes libres sur Radio Libertaire.
Reconnaissons-nous les femmes. Parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime les femmes. Ensemble, le libérons-nous. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, debout.
C'est Femmes Libres sur Radio Libertaire.
Bonsoir à toutes et tous. 45e émission de l'année 2023 et la dernière de cette année. Émission féministe et anarchiste pour combattre le patriarcat, le capitalisme, les religions, tous les pouvoirs qui nous oppriment, nous discriminent, nous exploitent. Nous sommes sur Radio Libertaire pour 2 heures d'antenne de l'émission Femmes Libres. Et Radio Libertaire, c'est la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. L'émission, c'est tous les mercredis de 18h30 à 20h30, l'émission que nous pouvons retrouver en podcast sur émission-femmeslibres.blogspot.com et aussi sur Facebook et Miss Cloud. Ce soir, une émission spéciale de toute l'équipe avec des extraits de certaines émissions, de certaines rubriques et avec évidemment quelques chansons que nous avons découvertes cette année. Alors, bonne écoute et nous nous retrouverons en direct en janvier après un bon solstice d'hiver.
De Ève à Philomène, sans oublier les autres. Philomène, c'est mon arrière-grand-mère. Elle était chef de gare dans les années 1900 et on disait d'elle que c'était une femme de tête qui faisait un métier d'homme. Il y aurait donc des femmes sans tête et des métiers de femmes. Ma rubrique va à la rencontre de toutes ces femmes sans tête qui, depuis la nuit des temps, ont été invisibilisées.
Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Denise Bombardier, qui est née en 1941 à Montréal, où elle est récemment décédée le 4 juillet 2023. Figure du journalisme francophone, animatrice de télévision, politologue, écrivaine, Denise Bombardier est aussi une grande voix féministe au Canada et une défenseure de la langue française. Polémiste québécoise, reine des coups de gueule et des controverses, elle est la première personnalité à s'opposer publiquement à la pédophilie de l'écrivain Gabriel Matzneff dès 1990 sur le plateau d'Apostrophe. Intellectuelle et féministe engagée, elle est l'une des premières femmes à avoir réussi à s'imposer dans les médias québécois où elle est connue pour son franc-parler. Elle a travaillé pour la chaîne de télévision francophone Radio-Canada pendant plus de 30 ans et elle laisse derrière elle l'image d'une grande professionnelle. Elle a accompagné l'histoire du Québec, cette province canadienne qu'elle aurait aimé voir reconnue comme un pays, et elle a œuvré pour raviver le lien culturel avec la France. Marie-Yvette, Louise Denise Bombardier, naît donc le 18 janvier 1941 à Montréal en pleine Deuxième Guerre mondiale d'un père autoritaire et glacial qu'elle qualifiait de terroriste familial et d'une mère attristée de l'avoir eue trop jeune. Dans son autobiographie, Une vie sans peur et sans regret, parue en 2018, elle raconte notamment son enfance difficile rue de Gaspé à Montréal. Elle déclare être née dans un milieu culturellement pauvre, où l'on s'aimait sans se le dire, où les rancœurs ne manquaient pas, où l'argent faisait défaut à la différence de l'alcool. Élevée dans un monde de femmes, entre sa mère, ses tantes et sa grand-mère, la petite Denise forge très tôt ses convictions féministes. Titulaire d'une maîtrise en sciences politiques de l'Université de Montréal et d'un doctorat en sociologie de la Sorbonne, elle s'extirpe finalement de son milieu familial et social pour devenir journaliste. Denise Bombardier commence donc sa carrière télévisuelle dans les années 70 comme recherchiste, c'est-à-dire documentaliste, pour une émission télévisée Radio-Canada. Et elle est la première femme à produire et animer une émission politique à la télévision canadienne, noir sur blanc, entre 1970